Donc effectivement, un ensemble de recherches qui, malgré leur dispersion, se retrouvent sur un ensemble de questions communes que finalement Loïc a déjà largement évoquées, qu'on a présentées en l'idée de 8 questions nodales un peu autour desquelles se retrouvent les travaux de recherche et qui constituent en même temps un agenda pour les recherches futures. C'est un des points sur lequel il faudra discuter, en tout cas sur lequel je conclurai. Les 3 premières donc touchent aux effets de la participation. C'est la journée de vendredi, je n'y reviens pas. L'appel à communication pour la journée de vendredi, essayer de différencier ces effets selon le niveau où ils se produisent, entre la question des impacts sur la décision, les transformations de l'action publique, la question des effets sur les individus, sur les participants, avec notamment la question au centre, la question de l'empowerment des individus, et puis la question des effets à plus long terme, des effets structuraux et substantiels de la participation. Et on a été intéressé par le fait de voir que la question des effets substantiels de la participation, est-ce que le fait de rentrer dans un ordre plus participatif, est-ce que le fait que l'impératif participatif gouverne un certain nombre de politiques publiques, est-ce que ça transforme la manière de produire ces politiques publiques ou non? Ces questions sont aujourd'hui assez largement posées. Ce qui ressort autour de cette question des effets, c'est cette idée du troisième temps, d'un troisième mouvement dans la recherche, qui implique un renouvellement du regard par rapport à la période où, qui est assez... avec de nombreux travaux qui étaient centrés sur l'analyse des dispositifs participatifs et qui visaient à appréhender à partir de l'analyse du déroulement des dispositifs leurs incidences sur les acteurs, sur les problèmes soumis à la délibération. Et ce renouvellement nécessaire conduit notamment à s'interroger, ça se croit, je pense, au cœur de la journée de vendredi, sur les conditions qui favorisent ou affaiblissent l'influence des dispositifs, sur les contextes d'action publique et leur capacité différenciée à produire une offre de participation. Et ce qui, évidemment, donc Loïc l'a déjà mentionné, suppose de développer des enquêtes comparatives intersectorielles. Pourquoi dans certains secteurs, par exemple l'environnement, la participation est consubstantielle finalement de la constitution des politiques publiques environnementales, alors que dans d'autres domaines, la participation s'impose extrêmement difficilement. Et puis des comparaisons internationales pour comprendre aussi pourquoi dans certains, même quand on raisonne sur les démocraties occidentales, pourquoi dans certains pays le phénomène participatif s'est plus développé ou s'est développé plus tôt que dans d'autres pays. Le deuxième ensemble de questions a trait justement à ce tropisme procédural avec des problématiques pour essayer de le dépasser. En tout cas, on a constaté que les différents travaux consacraient largement la notion de dispositif pour décrire l'ensemble des agencements qui sont aptes à orienter, déterminer, assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours, pour paraphraser Agamben. Et à travers 2 grandes questions, la question de l'influence des dispositifs, comment les dispositifs influencent la fabrication des publics, le cadrage des problèmes, quelles contraintes ils imposent à l'expression de ces publics, quel pouvoir ils confèrent à leurs organisateurs, question qu'on va retrouver à travers les questions de professionnalisation. La deuxième interrogation, qui est un peu plus nouvelle, c'est maintenant une mise en regard historique avec une interrogation sur la mise en institution de la participation, sa mise en histoire aussi, et la mise en histoire de sa codification juridique à travers l'analyse des processus d'institutionnalisation de leurs acteurs et une interrogation sur les forces et les risques de l'institutionnalisation. Troisième, la question un peu centrale qui est toujours présente à travers la critique justement de la place accordée au dispositif, c'est la question pendante de la place du conflit. Si on accorde trop de place au dispositif, on risque, et la critique sociale porte largement là-dessus, sur le fait que les dispositifs sont aussi souvent une manière de cadrer le conflit, voire de l'éradiquer. Et donc la question de la place du conflit de la question des rapports entre participation et coopération, la question et donc des effets aussi sur les mobilisations collectives est une, je pense, une des questions qui est partagée par un ensemble, pratiquement l'ensemble des travaux. Mais c'est bien sur cette question que la diversité des approches du phénomène participatif, la manière de conceptualiser l'idéal participatif et polarise assez fortement les approches. Moi, je retiens plutôt trois pôles, même si Loïc n'a pas parlé de deux. Je pense qu'il y a plutôt un pôle gestionnaire, effectivement, pour lequel la participation est un instrument de la modernisation de l'action publique et de la résolution des conflits. Il y a un pôle, disons, qu'on peut qualifier, ou que je qualifie ici, qui se préoccupe de la question de l'émancipation et de la participation comme revendication de transformation des rapports sociaux, avec des luttes, des conflits sur les contre les injustices sociales et les luttes pour l'égalité, et puis un pôle démocratique autour des questions de légitimation des décisions et donc de dépassement des conflits par le renouvellement de la délibération. Il y a un problème de cadrage d'écran. Les deux dernières questions touchent aux conséquences de l'extension du mouvement participatif, à la fois sur la professionnalisation de la participation. Et donc, est-ce que cette professionnalisation qu'on constate dans de nombreux pays ne conduit pas à de nouvelles asymétries de pouvoir et de savoir entre les acteurs ? Est-ce que c'est une interrogation réflexive qu'il nous faut conduire sur les contours de la coalition réformatrice qui porte la participation, dans lesquelles les chercheurs sont largement engagés ? Et donc, cette interrogation réflexive est importante parce que, effectivement, on rencontre une critique sociale qui va dénoncer dans les chercheurs et dans une forme de discours d'acceptation des décisions. Donc, les chercheurs sont critiqués comme étant des acceptologues. Et donc, cette question nous est renvoyée assez régulièrement pour les gens notamment qui travaillent sur des controverses scientifiques et techniques. Et donc, c'est une question qu'il faut avoir présente à l'esprit. Et puis, la dernière grande question, c'est tout ce qui touche à la justement au remaniement des savoirs, à la redéfinition d'expertise. Et Frank Fischer, ce soir, fera sa conférence sur ce thème, donc j'y reviens pas plus. Je conclue simplement par une double interrogation qui, je pense, doit aider à réfléchir sur ce à quoi peut contribuer le GIS dans les années qui viennent. C'est finalement de s'interroger sur le fait que, est-ce que ces huit questions qui peuvent bien sûr être discutées, c'est celles qu'on a repérées, on pourrait sans doute les reformuler autrement, mais est-ce que finalement l'ensemble des travaux dégage en quelque sorte le programme d'une science normale de la participation, une feuille de route des enquêtes et des recherches des prochaines années, notamment autour de protocoles plus largement partagés pour permettre une plus grande cumulativité des savoirs. Cette question a déjà été évoquée dans quelques ateliers hier, ou au contraire, est-ce qu'elle invite à un approfondissement de la confrontation entre les différentes approches théoriques? Et c'est cette question donc donne deux orientations, je pense, assez différentes. C'est finalement constituer la participation comme un grand champ disciplinaire, ou au contraire en voir ce par quoi concluait Loïc, plutôt un point d'entrée pour analyser les différents phénomènes sociaux avec des cadrages théoriques et des conflits de cadrages théoriques assez importants, et dont le GIST peut être un lieu de cette confrontation.